Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. RFI Midi sur tous les continents et à Kinshasa aujourd'hui. Deux occasions en or. D'abord, le match ce soir, l'occasion pour la République démocratique du Congo de participer à la prochaine Coupe du Monde. Dans les fan zones, dans les maquis ou à la maison, on se prépare. Inutile de vous dire que beaucoup retiennent leur souffle en attendant le coup d'envoi, alors que d'autres, eux, donnent déjà de la voix. Les chanceux qui ont fait le déplacement jusqu'au Mexique où se jouera le match.
Ça, c'est une grande journée vraiment. 52 ans, le Congo en attend. La dernière fois qu'on les a vus à la Coupe, mon père, il était un jeune homme. Il s'imaginait jamais voir le Congo encore. Et puis nous, on a la chance de voir ça live.
RDC Jamaïque, le match commence à 21h temps universel et au bout donc un ticket pour la Coupe du Monde. Les Léopards congolais n'y ont participé qu'une seule fois il y a plus de 50 ans, on en parlera et notamment dans Radio Foot en direct de Kinshasa aujourd'hui, tout comme Afrique Midi, édition spéciale tout à l'heure. Là il sera question des contrats miniers signés ces dernières années avec la Chine et avec les États-Unis plus récemment. Pour en parler, Xavier Besson recevra le vice-premier ministre chargé de l'économie et un représentant du collectif Le Congo n'est pas à vendre, qui dénonce lui ces accords.
RFI Midi.
Dans l'actualité de ce mardi également, Israël qui répète son intention d'occuper une partie du Liban après la guerre. Déclaration alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence après la mort de 3 casques bleus au Liban. Déclaration aussi alors que les condamnations s'enchaînent après l'adoption d'une loi discriminatoire très controversée en Israël. Elle rétablit la peine de mort officiellement pour les terroristes, mais le texte ne vise en réalité que les Palestiniens. Nous en parlerons en détail avec notre invité dans un peu plus d'une heure et avec le député français Aurélien Taché de la France Insoumise dans une demi-heure, un peu plus maintenant. Lui est membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée en France. Vous entendrez aussi le désarroi d'enseignants français en grève aujourd'hui. On parlera des concerts à venir de Céline Dion à Paris, puisque ça y est, c'est officiel. Et puis à partir de 13h, temps universel, la dernière partie de notre émission, nous recevrons aujourd'hui le ministre haïtien du Commerce et de l'Industrie. Vous avez le programme. Bienvenue. Et on commence donc avec le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et cette loi très décriée, votée hier par le Parlement israélien.
Une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes, mais vous l'avez dit Anne, elle est conçue pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens. Son adoption représente un tournant historique majeur pour l'État hébreu. Explication de notre correspondant Michel Paul.
Une victoire politique majeure pour les partisans de la ligne dure, malgré les réserves émises par l'armée et par les services de sécurité. Porté par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, le texte a été adopté par 62 voix contre 48, avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahou, un résultat proclamé par la vice-présidente du Parlement israélien, Limor Son Har Melech.
Je décrète que la proposition de loi sur la peine de mort pour les terroristes a été adoptée en deuxième et troisième lecture et que la loi entrera dans le code des lois de l'État d'Israël. Béni soit Dieu qui nous a fait vivre et nous a fait parvenir jusqu'à ce moment. Le peuple d'Israël vit.
Am Israël chai.
Concrètement, la loi cible les meurtres commis avec l'intention de nier l'existence de l'État d'Israël, une formulation qui, selon les ONG, exclut de fait les citoyens juifs pour ne viser que les Palestiniens. Désormais, une majorité simple de juges suffira pour prononcer la sentence, avec une exécution par pendaison prévue sous 90 jours. De plus, la loi ferme la porte à toute libération lors de futurs échanges de prisonniers. Si Itamar Ben-Gvir a célébré ce qu'il appelle un acte de justice historique, l'opposition menée par Yair Lapid dénonce un rêve pour le Hamas et une dérive raciste. C'est une loi en tout cas qui cristallise un peu plus la fracture d'une société israélienne plus polarisée que jamais. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Cette loi votée hier soir à la Knesset est condamnée par une grande partie de la communauté internationale. L'autorité palestinienne dénonce, elle, une tentative, je cite, de légitimer les exécutions extrajudiciaires. Les États-Unis ont, de leur côté, indiqué qu'ils respectaient le droit d'Israël à fixer ses propres lois. À New York, l'ONU est sur le point de réunir en urgence le Conseil de sécurité. 3 casques bleus indonésiens de la force intérimaire, la FINUL, ont été tués par une explosion d'origine inconnue dans le sud du Liban. Incident gravissime condamné par la France à l'origine de cette saisine du Conseil. Un peu plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, les violences continuent. Une partie de la ville de Téhéran s'est réveillée tôt ce matin sans électricité après de fortes explosions entendues dans la capitale iranienne. L'armée iranienne, elle, poursuit ses frappes contre Israël et contre les positions des alliés des États-Unis dans la région. À Dubaï, une attaque iranienne a visé un pétrolier sous pavillon koweïtien. Les marchés financiers sont actuellement hésitant après des informations de presse selon lesquelles Donald Trump envisage de mettre fin à l'intervention militaire en Iran même sans obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz. La Chine a indiqué que 3 de ses bateaux avaient franchi récemment ce détroit hautement stratégique pour le marché du pétrole. Elle a remercié les parties qui l'ont permis sans préciser quel pays. En Turquie, nouvelle mairie d'opposition visée par la justice, et pas n'importe laquelle, c'est la mairie de Bursa, 4e ville turque. Elle est située dans le nord-ouest de l'Anatolie. Son maire Mustafa Bozbey, un élu du CHP, le Parti Républicain du Peuple, est en garde à vue depuis ce matin dans une enquête pour corruption. Une centaine d'autres personnes ont été arrêtées. Cette opération est la dernière d'une longue série qui a déjà jeté en prison 18 maires du CHP, dont celui d'Istanbul. Les précisions sur place. Dan Andlauer.
Pour le CHP, le principal parti d'opposition turque, l'arrestation du maire de Bursa est un nouveau coup dur. Mustafa Bozbey a été interpellé avec une 50aine de personnes, dont plusieurs membres de sa famille pour des soupçons de corruption et blanchiment d'argent datant de l'époque où il était maire d'un arrondissement de la ville. Le CHP, qui dénonce une nouvelle opération politique, estime que le choix de la date ne doit rien au hasard. Cette arrestation survient 2 ans après les municipales du 31 mars 2024. Ce jour-là, Boursa avait basculé dans le camp de l'opposition après 20 ans sous la domination du parti de Recep Tayyip Erdogan. À l'échelle de la Turquie, le chef de l'État avait perdu ce scrutin, une première depuis son arrivée au pouvoir, et Boursa était devenu un symbole de cette défaite. Ces dernières semaines, les coups de filet se multiplient contre des mairies CHP, après une année marquée par de nombreuses arrestations, dont celle d'Ekrem İmamoğlu. Le maire déchu d'Istanbul et principal rival de Tayyip Erdogan, comparé depuis le 9 mars dans un vaste procès pour corruption présumée, à la barre ce lundi, il avait dénoncé, je cite, « une tempête de procès les visant lui et son parti ». Anandoua Ankara, RFI.
RFI.
Également dans l'actualité, le début d'un voyage en Asie d'Emmanuel Macron. Le président français est arrivé à Tokyo pour une visite officielle avec en toile de fond la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions économiques. Il se rendra ensuite en Corée du Sud. Avant de s'envoler pour l'Asie, le président s'est exprimé au sommet de la solution française de paiement carte bancaire. C'est une solution concurrente des géants américains que sont Visa et Mastercard. À ses yeux, les moyens de paiement représentent une part essentielle de la souveraineté des États. En France, une grève à l'éducation nationale. Les syndicats ont appelé les enseignants à cesser le travail dans le cadre d'une journée de mobilisation contre les suppressions de postes, les fermetures de classes et pour exiger de meilleurs salaires. À Marseille, la mobilisation est particulièrement forte. Reportage de notre correspondante Sophie Bourlet.
Église des réformés à Marseille ce matin. Ils sont un millier d'enseignants, de parents mais aussi de lycéens venus manifester. Parmi eux, Franck Neff, syndicaliste force ouvrière.
C'est 4000 postes en moins dans l'éducation nationale, dans les Bouches-du-Rhône. Le directeur académique a décidé 152 fermetures pour 80 ouvertures de classes. On va pas lâcher et on va chercher l'ensemble de nos postes pour nos conditions de travail en tant qu'enseignants mais aussi pour les conditions d'apprentissage de ces élèves.
Les lycéens sont nombreux, dans leurs mains des pancartes, éducation sacrifiée, génération oubliée. Thomas est l'un d'eux, il est en première à la Cité scolaire internationale.
On est venu manifester, ça fait 3 semaines qu'on se mobilise là, dans nos lycées on bloque, on vient se mobiliser pour les coupes budgétaires, le budget de le corps nu, des postes de profs supprimés, des postes d'AED, on a des classes qui ferment, on a des heures en moins, des options qui vont être supprimées, donc on trouve ça inacceptable et on vient réclamer notre argent.
Et puis il y a la guerre, omniprésente dans les slogans. Les manifestants reprochent au gouvernement de flécher le budget vers les conflits plutôt que l'éducation. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
À l'échelle nationale et selon les chiffres du ministère de l'Éducation, à peine 10% des enseignants sont en grève ce mardi. Au Soudan, les violences sexuelles sont une triste marque de fabrique du conflit en cours et elles s'inscrivent dans le cadre de punitions collectives infligées aux civils. C'est ce qu'on lit dans un rapport de l'ONG Médecins sans frontières. Le document affirme que les paramilitaires des FSR et leurs milices alliées multiplient délibérément les violences sexuelles au Darfour et ce afin d'humilier et de terroriser la population.
C'est une réunion très rare qui est programmée ce mardi aux États-Unis.
Celle de la God Squad, littéralement l'équipe divine. Ce surnom a été attribué au comité des espèces en danger. À l'ordre du jour, le golfe du Mexique et ses activités de forage pétrolier et gazier. À la demande de Donald Trump, il s'agit de lever toutes les protections des espèces menacées qui pourraient nuire à ses activités dans le golfe du Mexique. Simon Rosé.
Elle dispose en quelque sorte d'un droit de vie ou de mort sur des espèces entières. La God Squad, l'équipe divine, en tire son surnom. C'est elle qui peut révoquer le statut de protection d'espèces parmi les plus menacées. 7 personnes composent ce qui s'appelle officiellement le comité des espèces menacées, présidé par le secrétaire à l'intérieur, Doug Burgum, responsable de tout ce qui a trait aux ressources naturelles aux États-Unis et à la gestion des terres fédérales. La God Squad n'est que très rarement convoquée. Elle l'est, cette fois, à la demande du ministère de la Défense, qui lui demande, au nom de la sécurité nationale, de faciliter toutes les activités d'exploration et de développement pétroliers et gaziers dans le golfe du Mexique. En clair, abandonner les mesures de protection dont bénéficient les espèces en danger d'extinction. Il y en a des dizaines, on peut citer parmi elles l'emblématique baleine de Rice. Il n'en reste aujourd'hui plus que 51 après l'effondrement de sa population en 2010. C'était à la suite de la marée noire de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon.
Simon Rosé, chef du service environnement à la rédaction. Les initiatives pour limiter l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes, inspirées d'une mesure australienne prise en décembre, ces initiatives se multiplient à travers le monde. En Australie, la loi oblige les principales plateformes de réseaux à bloquer l'accès aux mineurs de moins de 16 ans. En France, les sénateurs examinent ce mardi le texte interdisant l'accès aux moins de 15 ans. Texte voté fin janvier à l'Assemblée nationale, mais amendé en commission au Sénat. Un désaccord entre les deux chambres du Parlement pourraient remettre en cause l'objectif affiché du président Macron d'une entrée en vigueur à la rentrée scolaire de septembre. Enfin, en basket, nouvelle démonstration de Victor Wembanyama, le français des Spurs de San Antonio. Il a flambé hier soir avec 41 points, son record cette saison face aux Chicago Bulls. 129 à 114, c'est le score final. Les Spurs sont inarrêtables en cette fin de saison. Très bonne journée sur RFI. Tout de suite, la suite d'RFI Midi en compagnie d'Anne Cantner.
À tout à l'heure, Gilles Moreau. La Fabrique du Monde, comme tous les jours à cette heure-ci désormais. Guillaume Nodin, vous nous parlez aujourd'hui de Taïwan, au cœur de la diplomatie mondiale ces temps-ci. Plusieurs représentants et élus taïwanais sont très demandés par les États-Unis et par la Chine.
Oui, le président chinois Xi Jinping a invité hier la chef de l'opposition taïwanaise à se rendre en Chine début avril, ce qu'elle a accepté avec plaisir. La dirigeante du Kuomintang espère pouvoir faire progresser le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit et œuvrer pour la paix, dit le communiqué du parti taïwanais, qui ne précise pas toutefois où se rendra exactement Cheng Li-woon, ni si elle rencontrera personnellement Xi Jinping. Une éventuelle rencontre sur laquelle elle avait fait campagne l'an dernier. Les relations de haut niveau entre la Chine et Taïwan sont coupées par Pékin depuis 10 ans.
Et les annonces de cette invitation, de son acceptation aussi, ne sont pas arrivées par hasard.
Non, parce que la journée d'hier correspondait aussi au début de la visite à Taipei d'une délégation bipartisane de 4 sénateurs américains. Ils sont sur place au moment où la loi sur les dépenses en matière de défense proposée par le président Lai Ching-te est bloquée au Parlement par l'opposition, dont la dirigeante est donc invitée en Chine. Le président propose 40 milliards de dollars de dépenses et l'opposition, incarnée par Mme Cheng Li-woon, se contenterait volontiers de 3 fois moins, ce qui sème le doute dans les rangs du Kuomintang. Pour le sénateur républicain de l'Utah, John Curtis, membre de la délégation américaine, il s'agit de vérifier qu'au moment où les États-Unis investissent dans la région, Taïwan investit aussi. Cette visite condamnée à Pékin, comme les précédentes du même type, est donc un message de soutien à Taïwan, en même temps qu'une certaine forme de pression, alors que Donald Trump semble parfois nuancé sur la défense de l'île dans certaines de ses déclarations.
Parce que la Chine revendique toujours cette île.
Oui, les autorités chinoises ne manquent jamais une occasion de le rappeler. Elles considèrent que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et rappellent à qui veut l'entendre que l'annexion et la réunification sont inéluctables, refusant d'exclure l'emploi de la force pour y parvenir. Jusqu'à il y a peu, la date de 2027 était avancée avec insistance à Washington. Plus maintenant, selon le dernier rapport annuel de l'évaluation des menaces du renseignement américain paru il y a tout juste quelques jours, il n'y a pas de calendrier fixe pour une invasion. La communauté américaine du renseignement estime néanmoins que Pékin devrait continuer à créer les conditions d'une unification.
C'est que cette île Taïwan se retrouve au milieu du grand jeu entre la Chine et les États-Unis.
Oui, les deux pays tentent de stabiliser leurs relations à la fois commerciales et stratégiques. C'était tout l'objet de la visite de Donald Trump prévue à Pékin ces jours-ci et finalement repoussée pour cause de guerre dans le golfe Persique, d'où vient 90% du pétrole acheté par la Chine. Il est à noter que quelques jours avant l'annonce de ce report, les incursions aérienne chinoise dans l'espace aérien taïwanais quasi quotidienne s'était arrêtée pendant plusieurs jours, sans explication. Washington annonce désormais cette visite pour la mi-mai, dans un mois et demi. Au rythme actuel des relations internationales, Anne, c'est presque une éternité et c'est un intervalle pendant lequel...
You were looking good to me. Now bouncy, bouncy. 99.1.
Le mix.
Flash spécial.
La construction, un secteur qui recrute en Normandie.
Envie d'un métier qui compte ? La construction, c'est avec vous et pour vous. C'est plus de 30 métiers dans le bâtiment et les travaux publics. Utiles, concrets, innovants. Des métiers pour tous. Et pour s'y former, rien de mieux que l'apprentissage. Alors, prêt à passer à l'action ? Il y a forcément un centre de formation près de chez vous. Rendez-vous sur laconstruction.fr.
La construction, la vivre, c'est encore mieux.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris.
Les années de jazz,
l'émission présentée par Michel Jules, vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h, sur Radio HDR,
laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz.
Ne manquez pas notre rendez-vous de jazz hebdomadaire, tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h.
Alors préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM.
Vous écoutez HDR 99.1.